Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette nouvelle série de cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc, je vais reprendre en fait la suite du cours des dernières années, donc, une série que j'ai baptisée Climats extrêmes et analogues actuels. Et dans les dernières années, je vous ai parlé abondamment en fait, des périodes assez récentes, des derniers milliers d'années, pendant la période qu'on appelle l'Holocène. Et cette année, en fait, on va aborder plus précisément une grande période de transition glaciaire-interglaciaire, ce qu'on appelle la transition ou la dernière déglaciation, avec en particulier cette période transitionnelle, le tardiglaciaire. Et donc ça va nous prendre plusieurs séances, et je vais essentiellement vous parler aujourd'hui des forçages climatiques de cette déglaciation. Et durant le cours, en fait, je vais souvent faire des va-et-vient entre les changements climatiques du passé, qui peut paraître assez lointain. Là, on va parler de... On remonte encore une fois, on recule dans le temps. L'Holocène, c'était les derniers 11 700 ans avant le présent. Et on va aller, on va doubler cette fenêtre temporelle. On va reculer dans le temps jusqu'à pratiquement 21 000 ans avant le présent. Et même s'il s'agit de périodes assez anciennes, en fait, de plus en plus, on a des informations chiffrées qui montrent ces changements climatiques et qui permettent, en fait, d'aller assez loin dans les interprétations. Et assez souvent, donc, je vais faire des va-et-vient entre la situation de l'époque et la situation actuelle, non seulement parce qu'il est possible, en fait, de faire une comparaison entre les amplitudes et la rapidité des changements climatiques avec ce qui se passe actuellement, mais aussi parce que, et surtout parce que les mécanismes climatiques, on peut les étudier en fait, de façon beaucoup plus précise avec les données sur le climat, sur ces mécanismes du climat actuel, enfin avec des données instrumentales, mais les mêmes mécanismes sont à l'œuvre avec, effectivement, des ingrédients qui peuvent être différents, des forçages qui peuvent être différents, des rapidités qui peuvent être très différentes, mais il s'agit du même système climatique. Et donc, il est très important, en fait, de faire ces comparaisons, ce va-et-vient incessant qui peut être fait, justement, aussi avec la modélisation climatique qui, elle, utilise, finalement, les mêmes modèles, à la fois pour étudier le climat actuel de façon rétrospective et, d'autre part, les climats anciens et, bien évidemment, le futur du climat de la Terre. Donc, en préambule, justement, pour bien montrer en fait, qu'on peut effectivement faire des parallèles avec les changements dans lesquels nous sommes engagés, je vous montre une vue qui résume un petit peu l'évolution de la température moyenne à l'échelle du globe pour les dernières années, pour les dernières décennies. Bon, c'est une courbe que vous avez vue à de très nombreuses reprises, qui vous présente en fait, l'anomalie de température depuis le début ou la fin du 19e siècle, avec différentes estimations, à partir, en fait, il faut imaginer que tous ces calculs de changement de température, d'anomalie de température exprimée en degrés, sont réalisés avec des données météorologiques qui sont avec une couverture mondiale, une couverture globale, et ensuite, ces données météorologiques vont être compilées par différents instituts de par le monde qui peuvent comparer leurs estimations, et comme vous le voyez, les estimations convergent en fait vers une augmentation de température, le fameux réchauffement global, réchauffement mondial, qui est très marqué, en particulier depuis 50 ans. Comme vous le voyez, c'est un panneau qui a été actualisé pour l'année 2022. On a une entre guillemets, superbe augmentation de température de pratiquement 1 degré depuis 50 ans, qui est effectivement le début en fait, d'un changement climatique important, le fameux réchauffement mondial dans lequel nous sommes engagés à l'heure actuelle. Alors ce réchauffement mondial, comme vous le voyez, donc, qui fait plus de 1 degré depuis le 19e siècle, il est le forçage principal, notamment pour les 50 dernières années, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique. Utile aussi, puisque ces émissions vont se poursuivre. Comme vous le savez, il y a plusieurs scénarios qui ont été proposés et qui peuvent être imaginés pour le futur des sociétés terrestres, il y a plusieurs types de scénarios qu'on peut qualifier de pessimistes ou de réalistes, puisque à l'heure actuelle, on ne s'éloigne pas trop de ces scénarios, je dirais, pessimistes, et des scénarios beaucoup plus optimistes avec une diminution, notamment des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, il s'agit d'un panneau. La partie de droite, en fait, vous présente le futur qui est compilé. Bon, là, il s'agit des dernières compilations qui ont été faites par le groupe du GIEC, donc publiées cette année, enfin, l'année dernière, en 2021, avec, donc, pour résumer, l'augmentation de température est montrée en grisé ici, qui vous montre l'augmentation de température depuis les années 50, depuis 1950, ce qui a été mesuré, hein, c'est l'équivalent de la courbe de gauche depuis 1950, et le futur qui, lui, est modélisé à l'aide de ces fameux modèles climatiques dont nous reparlerons, parce que ces mêmes modèles climatiques vont nous aider à comprendre cette phase post-glaciaire, cette transition, ce tardiglaciaire, de façon quantitative, avec, bien évidemment, pas les mêmes ingrédients, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'émissions de fuel fossile, enfin de CO2 fossile, par l'homme préhistorique. Et donc les mêmes, enfin, les forçages vont être différents, mais les amplitudes, comme nous allons le voir, l'amplitude des changements climatiques tardiglaciaires sont en fait du même ordre de grandeur que l'amplitude de ce qui est attendu pour la fin du siècle, en 2100. Dans le cas des scénarios pessimistes. Alors, il faut espérer, en fait, qu'on arrive finalement à diminuer ces émissions de gaz à effet de serre pour plutôt être dans la fourchette basse. Mais ces scénarios, par exemple, le scénario 2.6 qui est ici symbolisé en bleu sombre, ils sont en fait optimistes et même utopiques, parce qu'il faut savoir qu'ils convergent, par exemple, le scénario 2.6 converge à 420 ppm. De concentration de CO2 atmosphérique, c'est quelque chose que nous avons déjà atteint. Donc en fin de siècle, il est clair que ces scénarios sont assez optimistes et probablement utopiques pour certains, mais il est important justement de pouvoir les comparer pour un peu faire le constat et de ce qui nous attend prochainement, dans les prochaines décennies. Donc un changement, une ampleur du changement climatique qui est de l'ordre, ici, sur ce graphe actualisé, qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés pour les scénarios business as usual. Donc, si on laisse les émissions perdurer de façon incontrôlée, cette amplitude de changement climatique, qui se résume ici à un changement de température à l'échelle mondiale, et finalement du même ordre de grandeur que ce que nous allons voir pendant cette déglaciation, pendant cette période de transition entre la période glaciaire et la période holocène, qui est ce que l'on appelle la période du tardiglaciaire. Donc, pour résumer un petit peu les choses, j'aime bien montrer ces deux vues en fait, qui sont assez anciennes, mais qui en même temps sont actualisées, mais au point de vue de leur qualité artistique, cette carte de comparaison est pour l'instant toujours la meilleure. Vous avez une comparaison directe ici entre la situation il y a 21 000 ans avant le présent, qui correspond justement à ce maximum de la dernière glaciation, avec une cartographie de l'hémisphère nord de l'époque, qui est caractérisée essentiellement par la présence d'énormes calottes de glace, la calotte Laurentide qui était située sur le Canada, et la calotte fénoscandienne, située à la fois en Scandinavie et plus à l'est, et d'autre part, d'autres calottes plus petites sur l'Islande, sur les îles britanniques, un Groenland plus gros, et de l'autre côté de la Terre, dans l'hémisphère sud, l'Antarctique était effectivement plus volumineux. Et ce qui est comparé à gauche, c'est la situation actuelle des glaces et de la morphologie terrestre actuelle, avec essentiellement les glaces continentales de la calotte de glace du Groenland. Alors, à cause de ces changements de volume de calotte des glaces sur les continents, eh bien, le niveau de la mer était beaucoup plus bas que le niveau actuel, hein, plus de 100 mètres. On va voir que c'était de l'ordre de 130 mètres en dessous du niveau actuel. Et à cause de cela, eh bien, la géographie terrestre a été modifiée. On pouvait passer à pied sec depuis l'Alaska jusqu'à la Sibérie. Et on pouvait passer aussi à pied sec entre l'Angleterre et la France. Donc, au point de vue, on peut imaginer des conditions aussi diplomatiques intéressantes à l'époque. Donc, plus de facilité pour aller en Angleterre et aucune difficulté pour aller d'Amérique en Russie. Mais toujours est-il que la géographie de l'époque était effectivement profondément modifiée par ces volumes de glace, comme nous allons le voir un peu en détail. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler des causes, donc des causes intrinsèques, des forçages climatiques qui ont causé en fait cette glaciation et donc cette déglaciation qui nous intéresse, ce réchauffement mondial qui a eu lieu pendant la période de transition entre la période d'il y a 21 000 ans et le début de l'Holocène que nous avions vu dans les précédents cours. Et pour ce faire, donc, je vais faire quelques rappels en fait, sur ces différents forçages pour justement les avoir en tête et pouvoir les comparer et ensuite considérer leur modélisation dans les prochains cours. Alors, de façon très imagée, on peut simplifier le système climatique de la façon suivante, en différents compartiments. Ces différents compartiments incluent d'une part l'atmosphère, mais le climat ne se résume pas à l'atmosphère. L'atmosphère est un compartiment important, mais il est en contact avec d'autres compartiments du système climatique, notamment l'hydrosphère, les océans, les glaces, l'eau sous forme de glace, cryosphère, à la fois les glaces continentales et les glaces marines, la banquise, comme nous le verrons encore une fois dans le cadre du cours, et la biosphère qui échange aussi, toutes ces enveloppes en fait échangent entre elles de la matière, de l'eau essentiellement, sous forme de liquide ou de vapeur, et de glace, et d'autre part échangent d'autres substances, en particulier des gaz à effet de serre, d'autres gaz aussi, ici une petite liste, et d'autre part de l'énergie. Ce système climatique est en permanence sujet à des échanges qui sont symbolisés ici par des petites flèches d'énergie et de matière, et en même temps ce système n'arrive jamais à être à l'équilibre stationnaire parce qu'il est en permanence perturbé de l'extérieur de ce système climatique par ce que l'on appelle des forçages qui peuvent être extraterrestres. On peut avoir des fluctuations du soleil, de l'éclairement solaire, on peut avoir des changements dans des météorites qui nous arrivent de loin au-delà de la Terre, aujourd'hui on va avoir des changements de l'insolation qui sont liés à des changements de l'orbite terrestre. Et en contrepoint, il y a aussi des forçages externes au système climatique, mais qui sont purement internes à la Terre, notamment des changements de la composition atmosphérique avec le volcanisme, etc. Et plus récemment, ce qui nous concerne actuellement, les industries humaines qui font varier de façon très notable les différents gaz à effet de serre. Donc c'est un système climatique qui va être constamment perturbé par des forçages variés. Et pour ce qui concerne justement cette transition de déglaciation, cette dernière déglaciation, il faut faire intervenir le principal moteur qui pilote en fait ces changements glaciaires, interglaciaires, que sont les variations de l'orbite terrestre autour du Soleil. Donc ici, quelques planches en fait pour résumer un peu les choses. Donc, comme vous le savez, l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle, c'est une ellipse, et le Soleil est un foyer de l'ellipse, et donc, par conséquent, dans son année de révolution, la Terre décrit donc une ellipse avec une vitesse qui va varier dans le temps à cause de la distance Terre-Soleil qui varie dans le temps entre un point proximal, périhélie, un point où elle sera la plus éloignée du Soleil, aphélie. Et entre ces deux points, en fait, il y a une variation de la vitesse de la Terre. Donc ça, il s'agit d'une vue qui est très imagée et très simplifiée. Cette révolution de la Terre autour du Soleil qui est importante en fait, pour comprendre les changements climatiques à très long terme. Ici, une vue plus exacte reprend en fait, le cycle saisonnier. Actuel, qui, pour l'hémisphère nord, parce qu'encore une fois, il y a bien évidemment une anticorrélation entre les saisons de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, la principale raison en fait, du cycle saisonnier n'est pas la variation de l'orbite, mais plutôt, comme on va le voir, de l'obliquité de la Terre sur l'écliptique, avec un angle qui définit la latitude des tropiques. Mais sur cette planche qui résume en fait, ce cycle saisonnier, avec les différentes étapes du cycle saisonnier pour l'hémisphère nord, on revoit les différentes étapes, solstice d'été, équinoxe d'automne, solstice d'hiver, et avec des durées en fait, de saison qui varient de 89 à 93 jours, et qui sont liées justement à cette forme elliptique de l'orbite terrestre. Et d'autre part, de façon un peu contre-intuitive, on est pour l'hémisphère nord actuellement. Le solstice d'hiver correspond pratiquement à la période où la Terre est la plus proche du Soleil, du point de périhélie. Bon, ce n'est pas exactement concomitant, solstice d'hiver au 21 décembre, périhélie c'est le 3 janvier, mais on est pratiquement dans une configuration où on est relativement proche du Soleil pendant l'hiver, et le contraire est vrai, on est avec une configuration en aphélie pour l'été, donc une presque correspondance entre le solstice d'été et cette étape de l'aphélie dans cette révolution autour du Soleil. Et donc ces paramètres, alors il faudrait encore une fois inverser le cycle saisonnier dans l'hémisphère sud, mais ce qu'il faut avoir en tête, et c'est ça qui va expliquer la cyclicité des glaciations, c'est que ces paramètres de l'orbite terrestre, cette configuration, évolue dans le temps. Il y a essentiellement trois paramètres principaux de l'orbite terrestre. D'une part, l'aspect excentrique, l'excentricité de l'orbite terrestre, qui est représentée ici. L'obliquité, c'est-à-dire l'angle que fait l'axe de rotation de la Terre sur elle-même par rapport au plan de l'écliptique et donc à l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui définit en fait principalement les saisons. Et d'autre part, il faut imaginer que cet axe de rotation de la Terre, la Terre est animée d'un mouvement en fait de toupie et autour dans sa révolution autour du Soleil, et on a en fait un angle en fait qui va évoluer dans le temps, que l'on définit comme étant l'angle de la précession entre l'équinoxe de Mars et l'axe de périhélie, et donc cet oméga, cet angle de la précession, va évoluer dans le temps, comme le fait aussi l'excentricité et le paramètre d'obliquité, avec des cycles principaux qui sont liés à l'attraction du Soleil et des autres planètes, et donc il s'agit en fait de périodicité quasi stable, avec des changements de l'excentricité, avec une cyclicité dominante vers 100 000 ans, un changement de l'obliquité, comme on va le voir, avec une cyclicité de l'ordre de 41 000 ans, et des changements de la précession climatique de l'ordre de 22 000 ans, avec ce mouvement de toupie autour lors de la révolution autour du Soleil. Donc c'est ça qui explique, en fait, comme on va le voir, le phénomène de glaciation au cours du temps, avec une lente variation de ces principaux paramètres de l'orbite terrestre. Donc, encore une fois, une autre vue du problème qui résume un petit peu les choses, avec les configurations qui vont nous intéresser pendant cette période du tardiglaciaire, depuis 21 000 ans, à peu près la période du mécanisme de précession. Donc ici, on retrouve la situation quasiment actuelle, avec en été, lors du solstice, on est pratiquement en position d'aphélie, donc relativement éloigné du Soleil. Le contraire, en décembre, on est pratiquement en périhélie. Donc on a un cycle saisonnier qui est finalement amorti, alors qu'il y a une moitié de... Enfin, il y a à peu près 11 500 ans, donc la moitié de cette période, eh bien, on avait une situation qui était opposée. On avait une situation où la Terre était plus proche du Soleil en juin, en décembre, on était effectivement, la Terre était relativement plus éloignée du Soleil. Donc ça a tendance en fait à maximiser l'effet saisonnier, ça vient se cumuler aux changements qui sont liés à l'ubiquité. Donc ces trois paramètres orbitaux vont se conjuguer, vont se cumuler avec des périodicités qui sont différentes, 100 000, pour faire simple, 100 000, 41 000 et 22 000. Bon, il y a plusieurs périodes, mais peu importe. Et on peut les représenter, il est important en fait de les représenter dans le temps, on ne peut pas se contenter de regarder les derniers 10 000 ans, enfin on peut le faire, les derniers 10 000 ans ou les derniers 20 000 ans, mais pour avoir une meilleure compréhension des choses, pour voir, il est important d'avoir une vue un peu plus large. Ici, c'est une... Ce que je vous montre, c'est un résumé en fait, du forçage astronomique sur 300 000 ans, avec à chaque fois ma petite flèche qui évolue comme la flèche du temps, de gauche à droite dans ce cas-là, avec le temps présent étant situé ici, et ce qui est représenté, en fait, ce sont les fluctuations des différents paramètres importants qui vont influer sur le climat de la Terre et, comme nous allons le voir, expliquer en grande partie ces phénomènes de glaciation et notamment cette transition glaciaire-interglaciaire que nous allons étudier durant le cours. Donc, paramètre d'ubiquité, ici, l'ubiquité varie finalement assez peu, entre 22 et 24 degrés, donc c'est ça qui définit l'intensité des saisons, une cyclicité de l'ordre de 41 000 ans, une excentricité qui varie aussi dans le temps, de façon donc l'aspect plus ou moins excentrique de l'orbite de l'ellipse de la Terre et le paramètre de précession climatique qui combine en fait précession et excentricité, peu importe, qui varie avec une cyclicité rapide ici de l'ordre de 22 000 ans, comme vous le voyez. Et donc, grâce à ces changements en fait, de l'orbite terrestre, qui sont très bien calculés par les astronomes, notamment en France, Jacques Lascar, et il y a eu d'autres pionniers. Encore une fois, j'ai fait dans des précédents cours tout un historique de la théorie dite de Milankovitch en remontant jusqu'aux pionniers en fait, de la théorie astronomique des paléoclimats. Je ne vais pas le refaire, donc il y a toute une histoire en fait, de ces recherches. Mais à l'heure actuelle, ces fluctuations sont bien établies, bien calculées. Bon, ça avait commencé aussi dans les années 80 avec André Berger. Donc des fluctuations qui sont relativement bien connues et qui permettent en fait, de calculer l'insolation d'été, ou en fait pour toutes les saisons et pour toutes les latitudes de la Terre au cours du temps. Grâce à ces calculs en fait, des différents paramètres orbitaux, il est possible, on peut voir qu'ils vont engendrer des changements de l'insolation. Et je vous l'ai dit au départ, je vous ai montré en fait, le contraste entre les calottes de glace de la période glaciaire et de la période actuelle. Je vous ai montré la Laurentide et la calotte fénoscandienne. Ce que j'ai oublié de vous préciser, mais encore une fois, c'est apparent sur cette carte, la latitude moyenne de ces calottes de glace, qui sont responsables du changement du niveau marin pendant la glaciation, était entre 60 et 70 nord. Donc c'est pour cela en fait que depuis le début de ces calculs et de théorie orbitale, les chercheurs se focalisent souvent sur la reconstitution de l'insolation pour la latitude en été à 65 nord, parce que c'est effectivement cette insolation à 65 nord qui va être majeure pour expliquer les déglaciations et les glaciations. Mais encore une fois, lorsque l'on fait de la modélisation en particulier, explicite, on peut prendre en compte, on peut calculer l'insolation pour toutes les saisons et pour toutes les latitudes, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais on peut se contenter, c'est d'ailleurs ce qui avait été fait au départ, lorsqu'il n'y avait pas de calculateur par les pionniers de la théorie astronomique, à cause des limitations en calcul, ils s'étaient focalisés sur quelques latitudes, notamment la latitude de la présence de ces grandes calottes de glace sur les continents, sur le continent nord-américain et le continent le nord de l'Europe, donc vers 65 nord. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que, notamment pour la période qui nous concerne, donc on voit ces grandes fluctuations, on retrouve en fait, dans ces fluctuations de l'insolation, on va retrouver, elles sont là, en fait la combinaison de ces trois changements des paramètres orbitaux. Et si on fait une analyse fréquentielle, on va trouver en fait les trois périodicités qui sont responsables de ces fluctuations. Mais on voit très nettement que la déglaciation, enfin cette période entre 20 000 ans et l'actuel, et le début de l'Holocène, est caractérisée par un maximum de l'insolation à 65 nord. Et c'est lié au fait qu'on était à cette époque dans une configuration tout à fait favorable en fait à la fonte des calottes de glace, qui est résumé sur ce diagramme, avec une obliquité qui était maximale, ce qui a tendance en été à accroître la saisonnalité, à accroître la fonte en fait, des glaces à cause de cette augmentation de l'obliquité, et donc de l'insolation pendant l'été, et d'autre part, avoir une situation, comme je vous l'ai montré, avec cette cyclicité de la précession, qui place la Terre relativement proche du Soleil. Donc on a une combinaison entre les différents facteurs qui font qu'il y a 11-12 000 ans, on était dans une période très favorable avec une montée lente et une descente pendant l'Holocène. Donc c'est ça, finalement, le principal moteur initial, le pacemaker, comme l'avait l'ont utilisé les pionniers du sujet pour les changements de l'insolation orbitale constituent un petit peu le pacemaker de ces changements climatiques. C'est en fait ces fluctuations qui vont synchroniser ces variations. Et donc, il est intéressant de le regarder avec une échelle beaucoup plus longue que la dernière déglaciation, sur, par exemple, une échelle de temps de l'ordre du million d'années. Ici, c'est un diagramme en fait, qui vous représente, d'une part, les cycles orbitaux, précession climatique, obliquité, excentricité, différents paramètres avec leur cyclicité interne, une parmi d'autres, mais encore une fois, une qui est très importante, l'insolation d'été à 65 nord, qui correspond à la localisation principale de ces calottes de glace, et d'autre part, en correspondance, ici, un diagramme en fait, qui vous présente des fluctuations glaciaires-interglaciaires calculées à partir, enfin, essentiellement qui représentent le niveau marin au cours du temps, de façon simplifiée, à partir de mesures isotopiques qui sont réalisées dans des sédiments marins, à partir du delta O18, des foraminifères benthiques en particulier. Donc il faut imaginer des centaines de carottages qui ont été établis de par le monde et qui permettent de reconstituer les fluctuations glaciaires interglaciaires. Alors on pourrait graduer ici en niveau marin, mais globalement, ici, les points bas correspondent aux maxima glaciaires et la période de déglaciation, celle qui nous intéresse, que je souligne ici en jaune, elle est représentée ici avec une fluctuation qui est à cette échelle est quasiment verticale, mais qui correspond à une période que l'on va détailler, qui va se dérouler sur pratiquement 10 millénaires. Donc l'important, justement, de regarder ces fluctuations à beaucoup plus long terme, c'est que l'on voit que cette dernière transition glaciaire-interglaciaire, elle est à la fois très importante, mais en même temps, elle est très commune, parce que c'est quelque chose qui a eu lieu, il y a eu des transitions équivalentes pratiquement tous les 100 000 ans. Ici, elles sont reportées à chaque fois en gris. Ce sont les périodes de déglaciation avec les maxima interglaciaires du niveau marin, et, enfin, symbolisées ici en gris. Et ce qu'il faut voir, c'est que pratiquement toutes ces fluctuations, toutes ces transitions, toutes ces qu'on appelle des terminaisons, c'est le terme qui est consacré dans la littérature technique, toutes ces déglaciations sont caractérisées par un maximum, c'est ce que j'ai représenté ici avec des flèches vertes, elles sont toutes caractérisées par un maximum de l'insolation à 65 nord qui permet, qui est une configuration qui permet justement le déclassement et cette fonte généralisée des calottes de glace qui ont été formées pendant toute la période. C'est-à-dire qu'ici, ce que je regarde ici, les derniers 120 000 ans, toute cette chose-là représente le dernier grand cycle glaciaire depuis le dernier interglaciaire il y a à peu près 120 000 ans et la période holocène qui est notre interglaciaire depuis 11 000 ans. Donc on voit que le niveau de la mer est descendu continuellement, donc c'est quelque chose qui est, alors sur une petite courbe, on peut se dire voilà, ce sont des fluctuations, mais il s'agit de fluctuations de l'ordre de 130 mètres comme on va le voir, donc c'est l'accumulation énorme de glace pendant toute une période qui dure à peu près 100 000 ans, donc en fait la Terre, le système climatique intègre les fluctuations d'insolation pendant tout ce cycle. Et il y a des périodes très abruptes, très rapides, à l'échelle géologique, en tout cas sur cette échelle de temps, qui sont caractérisées par un maximum de l'insolation qui va permettre, dans une configuration spéciale, qui va permettre justement à cette Terre de se déglacer, de se désenglacer, partiellement, pas totalement. In fine, les cycles orbitaux sont effectivement la cause première de ces glaciations du Quaternaire. Mais on va voir en fait, qu'il faut aussi faire intervenir, si l'on utilisait, d'ailleurs ça a été fait à de nombreuses reprises, lorsque l'on introduit dans la modélisation climatique uniquement les fluctuations orbitales, ça ne permet pas de rendre compte complètement des amplitudes et de la déglaciation en particulier récurrente tous les 100 000 ans, il faut faire intervenir en fait, d'autres mécanismes qui sont en fait, à la fois des forçages et des rétroactions, comme nous allons le voir. Et en particulier, il faut faire intervenir l'effet de serre sur ces échelles de temps. Et pour reconstituer l'effet de serre sur ces échelles de temps, une des techniques les plus élaborées et qui permet les reconstitutions les plus fiables est de mesurer en fait, les gaz à effet de serre, et d'autres gaz aussi, dans les bulles d'air qui sont occluses dans les carottes de glace que l'on peut récupérer à la fois au Groenland et surtout en Antarctique pour le gaz carbonique. Donc ici, juste une vue qui vous présente donc un échantillon de glace entre les doigts d'un collègue glaciologue où on voit des toutes petites bulles. Et sur la partie droite, une vue en lumière polarisée avec des bulles d'air que l'on va pouvoir ouvrir et analyser quant à leur contenu. Donc, dans les précédents cours, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment pour l'Holocène. Ici, je vous avais montré notamment cette planche qui résume à partir de ces mesures dans les bulles d'air des carottes de glace la teneur en CO2 atmosphérique qui était pendant les derniers 11 000 ans relativement stable, mais pas complètement, donc on a vu qu'il y avait une fluctuation de l'ordre entre 260 ppm parties par million en volume jusqu'à 280 ppm. Aujourd'hui, nous sommes à... il faudrait déplier l'enregistrement pour vous montrer l'augmentation. À l'heure actuelle, nous sommes à 420 ppm pratiquement. Le méthane a aussi fluctué, nous l'avons vu au cours de cette période de l'Holocène. À l'heure actuelle, on va bientôt être à 2000 ppb, et un autre gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, ou gaz hilarant, qui vient se combiner, mais essentiellement, donc, pour toutes ces fluctuations vont s'ajouter les unes aux autres pour constituer des fluctuations de l'effet de serre généralisées de la Terre, qui ont été relativement faibles, une vingtaine de ppm pour le gaz carbonique. On est allé dans les détails pour essayer de l'expliquer dans le précédent cours, en faisant intervenir aussi potentiellement une cause humaine à la fois pour le méthane et pour le CO2 sur les derniers millénaires. Mais au-delà, maintenant, quand on va plus loin dans le temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une toute autre perspective. Ici, vous avez une planche qui résume en fait, les fluctuations de la teneur en CO2 atmosphérique, toujours exprimée en ppm, partie par million, avec la partie holocène qui est résumée sur la partie droite de ce diagramme, qui évolue là depuis 800 000 ans avant le présent, jusqu'à l'année 2014. Aujourd'hui, donc en 2014, la teneur était pratiquement de 400 ppm. Aujourd'hui, nous sommes à entre 415 et 420 ppm. Donc c'est quelque chose qui augmente perpétuellement avec nos émissions. Et ce qu'il faut voir, c'est que la paire de l'Holocène, donc qui est effectivement très petite sur ce diagramme, était précédée par de très larges fluctuations avec une amplitude de l'ordre de 100 ppm, pratiquement du même ordre de grandeur que ce que nous avons fait subir à l'atmosphère de la Terre depuis le début de la révolution industrielle. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des fluctuations qui sont cycliques avec, de loin, vous le voyez, des fluctuations qui sont de l'ordre de 100 000 ans, qui ressemblent, et en fait qui sont synchrones avec, en tout cas à cette échelle-là, qui sont synchrones avec les fluctuations glaciaires-interglaciaires. Donc une autre planche qui présente justement ces variations ici sur 800 000 ans, donc là il s'agit de résultats qui ont été établis dans la carotte, dans des carottes de glace prélevées en Antarctique, la carotte des Picards. Vous avez à la fois le CO2, le méthane, donc vous voyez que dans les mêmes échantillons, là il s'agit de mesures qui ont été effectuées effectivement dans les mêmes échantillons, vous retrouvez pratiquement exactement les mêmes fluctuations. Alors, pas dans le détail, on peut justement, les spécialistes vont s'acharner à essayer de comprendre les fluctuations respectives, mais au premier ordre, on voit des fluctuations qui sont totalement synchrones, notamment pour les transitions, pour la déglaciation qui va nous intéresser, elle est ici toujours soulignée avec du jaune, a été ajoutée sur ce diagramme une échelle de température, parce qu'il est possible aussi de mesurer des paléotempératures régionales, locales, au niveau de l'Antarctique, à partir des isotopes de l'eau notamment, et ce que l'on voit, qui en fait fluctue avec ces grands changements glaciaires-interglaciaires, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des fluctuations qui sont totalement synchrones à cette échelle de temps, lorsqu'on regarde ces fluctuations avec cette vue établie sur 800 000 ans. Donc on a une covariation, on peut voir directement une covariation qui est encore plus impressionnante lorsqu'on superpose par exemple le CO2 et la température régionale de l'Antarctique, vous voyez une superposition. La déglaciation qui nous intéresse, cette transition tardiglaciaire est ici, et la dernière période glaciaire, les derniers 100 000 ans sont ici, la dernière période interglaciaire, il y a 100, 120 000 ans, est située là, d'où vous voyez une très belle corrélation entre les deux courbes. Alors, des détails peuvent être étudiés pour essayer de comprendre un peu mieux ces fluctuations, mais au premier ordre, on voit des fluctuations qui sont totalement synchrones, notamment pour ces transitions, ces fameuses déglaciations, la dernière déglaciation, l'avant-dernière, etc., et qui correspondent à ces fluctuations aussi de l'insolation à 65 nord, avec des maxima de l'insolation. Donc là, il s'agit d'une comparaison de la pression partielle, enfin de la teneur en CO2 exprimée en ppm de l'atmosphère, qui constitue un forçage climatique, puisque c'est un gaz à effet de serre à l'échelle globale, mais comparé à des températures régionales au niveau de l'Antarctique. Maintenant, si on essaye de faire une compilation de tous les changements à la fois à basse latitude et à haute latitude, il est possible de faire des comparaisons encore plus, qui marquent en fait encore plus le fait que toutes ces fluctuations, à cette échelle de temps, sont en fait synchrones. C'est ce que je vous montre ici, avec une compilation, en fait. Il s'agit de compilations de très nombreuses mesures établies pour de très nombreux sites, des changements à la fois de la P de CO2. Donc là, ici, c'est un diagramme qui se lit de droite à gauche. Je vous rappelle, à chaque fois, je mets une petite flèche. Les conventions chez les auteurs varient. Donc le temps zéro est ici, la déglaciation qui nous intéresse est soulignée en jaune. Donc depuis 800 000 ans, on voit des fluctuations, on revoit ces fluctuations de CO2 que je vous ai montrées juste avant. Et surajoutée, en superposition, vous avez une petite courbe jaune qui correspond au changement de température de la surface de l'océan établi avec des centaines de carottages de par le monde. Donc c'est SST veut dire Sea Surface Temperature. Donc il faut imaginer des compilations de beaucoup de sites qui permettent de faire une reconstitution approximative, mais encore une fois moyennée des changements de température qui sont exprimés ici en degrés Celsius. Il est possible aussi, dans les mêmes sédiments, d'étudier les changements de l'océan profond. C'est ce qui est fait avec la petite courbe ici en vert sombre. Les changements de température de l'Antarctique, je vous en ai déjà parlé, sont représentés ici avec des deltas de température avec du vert clair. Les changements du niveau marin, nous en avons déjà parlé, je vous ai parlé du delta O18 des foraminifères benthiques, donc on les retrouve ici avec une compilation encore plus récente. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à cette échelle-là, on voit essentiellement ces fluctuations, ces grandes fluctuations glaciaires-interglaciaires, qui sont pratiquement synchrones à chaque fois avec des déglaciations, notamment la dernière, qui nous intéresse. Donc un phénomène qui est cyclique. Et ce qui est important, c'est qu'on revoit aussi le fait que l'insolation qui est représentée ici, l'insolation à 65 nord, permet d'expliquer, montre en fait qu'il y a pour chaque grande transition glaciaire-interglaciaire, notamment l'avant-dernière ou la dernière qui nous intéresse, des maxima, elles correspondent toutes à des maxima de l'insolation à 65 nord. On voit aussi qu'il n'y a pas de relation linéaire simple entre le forçage d'insolation et les changements glaciaires-interglaciaires, notamment il n'y a pas de relation univoque, simple, linéaire entre l'insolation à 65 nord et le niveau marin. Ça vient du fait, je l'ai déjà dit, que pendant toute la période de la dernière glaciation, eh bien, il y a construction de ces énormes calottes de glace et que finalement, la situation il y a 20 000 ans, celle qui est le point de départ de ce que nous allons étudier, elle résulte en fait de l'intégration pendant pratiquement 100 000 ans des forçages climatiques, notamment du forçage de l'insolation. Mais en tout état de cause, lorsque l'on donc il ne faut pas, on ne s'attend pas à avoir une relation linéaire entre le niveau marin et l'insolation, parce qu'il y a un effet d'intégration. D'ailleurs, en fait, il est aussi possible d'utiliser des équations relativement simples qui permettent d'intégrer le signal d'insolation. C'est ce qui a été fait. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de cette modélisation très, très simpliste, mais il est possible, avec quelques équations, de modéliser cette intégration du forçage d'insolation. Et c'est ce qui a été fait sur ces petites courbes qui, elles, par contre, sont beaucoup plus ressemblent beaucoup plus aux fluctuations du niveau marin, et ces courbes ont été uniquement calculées à partir des changements de l'insolation. Donc on a un phénomène d'intégration de ces fluctuations du forçage pendant des dizaines de milliers d'années, en tout cas pendant les 100 000 ans d'une glaciation, qui explique cette complexité dans la relation entre les fluctuations glaciaires-interglaciaires et le forçage primaire, qui est le forçage de l'insolation orbitale. D'autre part, ce forçage orbital, il contient en fait les différentes cyclicités de l'orbite terrestre, précession, obliquité et excentricité, comme je vous l'ai dit. Mais comme on le voit aussi ici, et on l'avait déjà vu aussi auparavant, le gaz carbonique atmosphérique présente aussi des fluctuations tous les 100 000 ans. En fait, il n'y a pas une relation directe entre l'orbite terrestre et le CO2 atmosphérique, cette relation, elle est indirecte. C'est-à-dire que c'est la réponse, le fait que lorsque l'on fait une analyse fréquentielle des analyses, des fluctuations en fait, du gaz carbonique, on retrouve bien évidemment les fluctuations de l'obliquité, de la précession et de l'excentricité, mais ces fluctuations, elles sont liées au fait que le CO2 constitue en fait une réponse. Mon micro est descendu. Merci. Donc le gaz carbonique n'est pas directement piloté par les fluctuations de l'orbite terrestre, mais par contre, il s'agit d'une réponse du cycle du carbone aux fluctuations climatiques qui vont donc rétroagir et faire fluctuer le cycle du carbone et, par voie de conséquence, le gaz carbonique atmosphérique. Donc on a des... On a étudié dans le passé des cours c'est le cycle du carbone de façon un peu détaillée. Donc le gaz carbonique est à la fois dans l'atmosphère, dans l'océan et dans d'autres compartiments encore. Mais ces fluctuations cycliques du gaz carbonique, en fait, elles sont en fait un effet des changements glaciaires-interglaciaires qui sont au départ pilotée par les fluctuations orbitales, mais comme il s'agit d'un effet de serre, ce gaz carbonique, en fait, a un rôle d'amplificateur. Il va jouer comme un rôle d'amplificateur de ces changements climatiques. Donc il est important de les prendre en compte. Il s'agit finalement d'un forçage aussi, puisque c'est le forçage de ces gaz à effet de serre, pas seulement le gaz carbonique, mais aussi le méthane, le N2O, etc., qui fluctuent avec ces grands changements glaciaires-interglaciaires. Ces différentes fluctuations sont à la fois un effet des fluctuations climatiques, mais aussi une cause, puisque ce sont des gaz à effet de serre, et donc une rétroaction qui va amplifier, une rétroaction positive. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce forçage orbital. Donc, si l'on revient maintenant à cette déglaciation, si on déplie cette petite partie de l'enregistrement entre 0 et 20 000 ans, eh bien, on trouverait une vue simplifiée de cette déglaciation, avec un diagramme qui est représenté ici depuis 25 000 ans jusqu'au temps présent, avec une fluctuation du niveau marin global de l'ordre de plus de 100 mètres, nous la verrons en détail dans le cours, un forçage primaire qui est essentiellement lié à l'insolation, aux variations de l'insolation à toutes les latitudes. Encore une fois, si l'on représente une courbe, la courbe la plus importante pour l'évolution des calottes de glace de l'époque, qui étaient localisées essentiellement entre 60 et 70 nord, et le forçage de l'insolation d'été à 65 nord. Donc ce forçage montre en fait un maximum situé vers 11 000, 12 000 ans avant le présent, et d'autre part, un forçage qui est à la fois un effet climatique, mais en même temps une rétroaction, donc un forçage secondaire, qui est la fluctuation du gaz carbonique, ici les teneurs en gaz carbonique de la carotte de Vostok, mais qui montre, encore une fois, une fluctuation entre moins de 200 ppm et 260 ppm au début de l'Holocène, comme nous l'avions vu dans les précédents cours. Donc on a à la fois des forçages que l'on peut qualifier de primaires et des rétroactions positives, des forçages secondaires, notamment le forçage du gaz carbonique atmosphérique. Alors une façon aussi de représenter les choses est de... notamment lorsque l'on voudra, dans le cadre du cours et dans le cadre de la recherche sur le sujet, lorsque l'on veut faire des modélisations explicites à très haute résolution spatio-temporelle avec des modèles climatiques 3D, les fameux modèles de circulation générale, que je symbolise à chaque fois avec cette représentation sur mes diagrammes. Ici, on peut résumer en fait les choses, les différents forçages, avec des moyennes à l'échelle globale des différents forçages pour des différentes perturbations radiatives du climat pour différentes périodes, notamment pour la période du dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans, le point de départ de notre déglaciation. Donc il s'agit d'un diagramme résumé à l'échelle mondiale, donc très simplifié, qui représente en fait les choses avec une unité exprimée en watts par mètre carré. Tout à l'heure, je vous ai montré en fait les fluctuations du gaz carbonique atmosphérique. Il est possible d'exprimer non seulement ces fluctuations de la teneur en CO2 atmosphérique sous la forme de ppm, directement les mesures directes qui ont été établies, mais aussi on peut les convertir en forçage radiatif, en watts par mètre carré. J'ai oublié de vous le montrer sur la courbe où je montrais les fluctuations de gaz carbonique. Il y avait aussi une échelle en watts par mètre carré avec des grandes fluctuations de l'ordre de plusieurs, en particulier pour le CO2, de plus de 2 watts par mètre carré à l'échelle mondiale comme forçage pendant cette déglaciation. Donc comme il faisait plus froid, ces forçages sont tous portés négativement ici, par convention. Le gaz carbonique, cette planche, en fait, résume un peu les perturbations radiatives, donc le forçage radiatif que l'on serait obligé d'inclure, par exemple, dans la modélisation climatique, pour rendre compte de ce climat glaciaire, donc le gaz carbonique, méthane et N2O avec une moindre ampleur et au point de vue intensité de la perturbation radiative. Par point de comparaison, j'ai représenté la perturbation radiative actuelle qui est liée à la fois au gaz à effet de serre superposé avec l'effet des aérosols pour la perturbation actuelle depuis le début de la révolution industrielle. Donc on est en réchauffement, alors que pendant la période glaciaire, effectivement, il faisait plus froid, en particulier parce qu'il y avait ces fluctuations de gaz à effet de serre. À cette échelle, de façon un peu contre-intuitive, je vous ai dit que le forçage orbital, c'était un forçage saisonnier et qu'il était, en plus, il variait beaucoup en fonction des latitudes et qu'il est important pour les déglaciations et les glaciations d'expliquer la position, la croissance en fait, des calottes de glace qui ne se fait pas n'importe où sur les continents. Elle se fait essentiellement au nord de l'Europe et sur le continent nord-américain. Et donc, ce signal, lorsqu'on l'intègre à l'échelle mondiale, il est quasiment négligeable. Hein, quand on fait une compilation, bon, encore une fois, on a accès à tous les calculs en fonction des saisons et en fonction des latitudes. Mais lorsqu'on intègre et que l'on représente la perturbation radiative terrestre pendant la glaciation, on est avec un changement qui est même dans l'autre sens, mais qui est tout petit, mais cela masque le fait que ce qui est important, c'est d'en tenir compte en fonction des saisons et en fonction des latitudes. Mais alors, le point que je voulais vous montrer et insister est que sur ce diagramme est reporté aussi d'autres mécanismes, d'autres perturbations radiatives qui sont... Alors, on va en prendre compte dans la modélisation, en particulier à haute résolution, de façon en les imposant à la modélisation comme si c'était des forçages, mais il s'agit en fait essentiellement de rétroactions, de mécanismes qui sont liés au phénomène de glaciation. Notamment, il faut tenir compte du coefficient de réflexion, de l'albédo, en fait, à la fois des changements qui sont liés au changement de la végétation, mais surtout aussi au fait qu'il y avait des calottes de glace qui ont tendance, comme toutes les glaces, à réfléchir le rayonnement incident du Soleil. Et donc ça aussi, ça va avoir une grosse influence. Il y a aussi les poussières qui interviennent. Mais donc, pendant la glaciation, un des mécanismes vraiment très importants de forçage radiatif qui vient s'ajouter au forçage saisonnier et en fonction des latitudes orbitales, du forçage des gaz à effet de serre, rétroaction du cycle du carbone, ce sont aussi les forçages qui sont liés à la présence de ces glaces, qui vont donc avoir un effet de rétroaction sur le climat, avec, en réfléchissant, une partie du rayonnement incident du Soleil. Donc c'est vrai à la fois pour les glaces continentales et les glaces marines. C'est ce qui est résumé un petit peu sur cette planche qui présente ici une vue imagée de la situation actuelle avec l'hémisphère nord qui est... Il n'y a qu'une seule calotte de glace qui est la calotte du Groenland et des glaces de mer, la banquise ici qui est représentée pour une situation actuelle. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ces glaces, à la fois continentales et marines, ont tendance à réfléchir le rayonnement solaire. C'est l'effet de contraste entre les réflexions avec une situation sans glace et avec glace est très important. Ici, vous avez un petit résumé. Par exemple, pour l'océan, le coefficient d'albédo, le coefficient de réflexion, varie entre, ici, 0,06 pour une incidence directe sur la mer. Dès qu'on met de la glace nue, de la glace, de la banquise, on a 50% du rayonnement qui va être réémis, et dès que cette glace va être recouverte de neige, eh bien, il va y avoir un coefficient de réflexion beaucoup plus important. Ce coefficient d'albédo ici est de l'ordre de 0,9, donc on va avoir tendance finalement à refroidir juste par effet de réflexion, effet de miroir, de cette présence donc de à la fois de glace marine et de glace continentale. Il est important aussi de voir que la disparition, la fonte de ces glaces va aussi accélérer le phénomène, puisque lorsqu'on va perdre à la fois de la glace de mer, c'est vrai aussi à l'heure actuelle, c'est un des soucis, c'est ça qui explique en particulier ce que l'on appelle l'amplification polaire du changement climatique. Dès qu'il va y avoir retraite de ces glaces de mer et glaces continentales, eh bien, le rayonnement solaire va pouvoir pénétrer beaucoup plus à la fois dans l'océan et dans les surfaces continentales et contribuer à la fonte des glaces et donc l'accélérer. Donc on a un phénomène, un cercle vicieux, pour faire simple, une rétroaction positive, pas positive pour le climat, mais juste par effet d'amplification qui va être très important. Donc si l'on veut essayer pour l'étude en fait, de la déglaciation, si l'on veut essayer de reconstituer l'albédo terrestre pendant les différentes périodes de cette déglaciation, depuis le maximum glaciaire il y a 21 000 ans jusqu'à la période du début de l'Holocène, il va être très important en fait, de reconstituer les changements de l'extension et du volume aussi de ces calottes de glace sur les continents, ainsi que les glaces de mer, pendant la glace de mer, de la banquise, à la fois nord et sud, pendant toute cette période, notamment depuis le dernier maximum glaciaire, mais aussi pendant toute la transition. Donc c'est ce que nous allons voir dans la suite du cours. En particulier, maintenant je vais passer un peu de temps sur les changements du niveau marin pendant la déglaciation. Donc nous en avons déjà parlé un peu lorsque nous avons envisagé la période de l'Holocène, mais maintenant nous allons aller plus loin vers des périodes plus anciennes, jusqu'à 21 000 ans, pour regarder ce que je vous ai montré, là, qui était coincé sur la droite ou la gauche de mes diagrammes. Donc nous allons regarder ces fluctuations en fait, des volumes de glace et de l'extension des glaciers à la fois continentaux et les glaces de mer. Alors, lorsque l'on veut reconstituer en fait les fluctuations du niveau marin au cours du temps, notamment pendant cette période de la déglaciation, eh bien, on va utiliser essentiellement des marqueurs du niveau marin. Je vous ai parlé du delta O18 que l'on peut mesurer dans les foraminifères benthiques, qui est un indicateur du niveau marin, mais cet indicateur qui est assez imparfait, il est aussi influencé par les changements de température du fond de l'océan. Donc lorsqu'on regarde des changements glaciaires-interglaciaires au cours de très longues périodes, on peut se contenter effectivement de considérer le delta O18 comme un marqueur du niveau marin, mais lorsque l'on veut effectivement étudier finement la déglaciation et les différents taux de remontée du niveau de la mer et qui correspondent finalement au changement de volume de ces calottes de glace sur les continents, notamment la calotte Laurentide et la calotte fennoscandienne, eh bien, il faut travailler avec d'autres indicateurs. Et les indicateurs préférés, en tout cas ceux que je préfère, ce sont les récifs coralliens qui permettent de reconstituer les fluctuations du niveau marin pour différents sites, en particulier parce que les récifs coralliens, enfin les coraux constructeurs de récifs, sont des animaux, mais ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec des plantes, avec des algues dont ils se nourrissent, ce qu'on appelle des zooxanthelles. Et à cause de cela, eh bien, les récifs coralliens sont obligés de vivre relativement proche de la surface. Et donc, lorsque le niveau marin fluctue, eh bien, les récifs coralliens vont soit décéder si le niveau de la mer baisse, soit essayer de suivre les fluctuations du niveau marin pour continuer leur croissance, leur symbiose avec les fameuses zooxanthelles. Donc ici, juste quelques photos de récifs coralliens tout à fait typiques. Ça, c'est une vue de Mayotte, une vue dans les Caraïbes. Il y a des constructions récifales qui suivent vraiment le niveau de l'eau à quelques décimètres près. On en avait déjà parlé, puisque je vous ai fait tout un cours aussi sur les changements du niveau marin pour la période holocène. Donc on va reprendre en fait ces marqueurs, mais on va les étudier effectivement sur des périodes plus longues. Alors à plus long terme, on a effectivement des terrasses coralliennes. Ici, vous avez il s'agit de l'île de Marais, en Nouvelle-Calédonie, des terrasses coralliennes qui correspondent à des hauts niveaux marins. Donc ces coraux vont suivre et vont nous servir de marqueurs. Donc on va essayer de trouver, ce qu'on recherche, c'est en fait des coraux fossiles qui vont nous permettre de reconstituer le niveau de la mer au cours du temps. Donc c'est un exercice que plusieurs équipes ont pu réaliser. Dans mon laboratoire à Aix-en-Provence, nous avons beaucoup contribué sur cette thématique. En particulier, nous avons étudié les récifs de Polynésie. Donc ici, une vue du port de Papeete. Pas tellement pour vous montrer pour vous faire rêver de la Polynésie, parce qu'il s'agit probablement j'ai pas de critique à faire sur ce port, mais c'est pas l'endroit bien évidemment le plus joli de la Polynésie. Mais l'intérêt en fait du port de Papeete, c'est qu'une partie du port est construite directement sur le récif barrière. C'est pour cela que je voulais vous montrer cette cette carte postale, en fait, qui présente à la fois le port de Papeete et une partie de ce port est effectivement construit directement sur la barrière récifale qui sépare en fait le lagon du large, hein, situé ici. Donc c'est ici une vue un peu plus complète du port de Papeete avec l'implantation, ce qui est représenté ici, là les différentes barres rouges représentent l'implantation en fait de différents trous de forage que nous avons réalisés avec des collègues de l'IRD qui nous ont permis en fait de récupérer des séquences de coraux fossiles, des séquences récifales que l'on a pu étudier ensuite au laboratoire, comme je vais vous le montrer. Donc une série de forages à la fois verticaux et déviés vers le large, avec cette petite image représente la foreuse que nous avions utilisée à l'époque. Et d'autre part, en parallèle, nous avons aussi organisé des campagnes de forage offshore à Tahiti, à la fois pas très loin du port de Papeete, mais aussi plus au sud et plus à l'est, avec à chaque fois l'effort étant concentré sur le forage d'une série de carottages, parce qu'on ne peut pas reconstituer la fluctuation glaciaire-interglaciaire uniquement avec un forage, parce que bon, on comprend bien que comme le niveau de la mer évolue dans le temps de plus de 100 mètres, et comme il y a une pente importante récifale, de cette pente récifale, il déclare qu'il faut faire une série de forages offshore pour avoir la série complète. Il faut à la fois forer directement sur le récif, mais aussi faire des forages offshore. Donc, c'est en fait ce que nous avions fait dans le cadre d'un grand programme international qui s'appelle le programme IODP, donc International Ocean Drilling Program, avec un forage, avec une barge de forage, comme vous le voyez ici, qui avait été utilisée pour récupérer de nombreux forages offshore pour compléter ce que nous avions déjà avec les forages sur le récif barrière établi à pied sec à partir du port de Papeete. Donc voici quelques exemples de tronçons de carottes récifales. Ici, deux exemples de carottage. Alors, ce sont des carottages qui présentent de nombreux trous, c'est-à-dire qu'il y a des vides, c'est assez différent des carottages de sédiments marins qui sont généralement continus, il n'y a pas de problème. Ici, on rencontre des coraux fossiles, d'autres organismes qui sont ici qui sont visibles ici sur la photo en gris. Et on peut rencontrer aussi cette carotte singulière. On pourrait la regarder un peu plus en détail, mais on voit un contact en fait entre la série post-glaciaire, celle qui va nous intéresser, et des coraux beaucoup plus anciens qui sont en fait altérés, qui correspondent à des récifs beaucoup plus anciens. Donc on a un contact, une non-conformité géologique ici, avec un contact direct entre des objets qui sont beaucoup plus anciens que la série post-glaciaire. Alors, quand je dis beaucoup plus anciens, c'est qu'il faut aussi pouvoir dater. L'information sur le niveau de la mer, elle est fournie directement par les coraux. Les coraux poussent relativement proche de la surface de l'océan, donc ils vont suivre au cours de la déglaciation le niveau de la mer, mais en plus, il faut les dater, il faut utiliser des méthodes de géochronologie, et les deux méthodes de géochronologie que nous utilisons en particulier à Aix, dans mon laboratoire, ce sont les datations à l'uranium-thorium et les datations avec le radiocarbone, donc ici des vues de deux outils que nous pouvons utiliser pour ces datations. Donc on peut reconstituer, chaque corail va pouvoir nous donner un point sur cette remontée du niveau marin post-glaciaire pendant cette transition du tardif glaciaire. Alors ici, vous sont présentés plusieurs types d'échantillons. Il faut en plus étudier finement, donc il y a toute une équipe derrière qui va étudier finement, à la fois faire de la géochronologie, mais aussi étudier dans le détail, faire de la paléontologie et essayer de reconnaître les différentes espèces, parce que les différentes espèces de coraux ne poussent pas exactement à la même profondeur, et pour reconstituer des fluctuations glaciaires-interglaciaires, il vaut mieux travailler sur des coraux qui ont un habitat à l'heure actuelle, étudié à l'heure actuelle en plein océan, relativement contraint, relativement faible, plutôt que des coraux ubiquistes qui peuvent pousser à entre 0 et 50 mètres de profondeur. Il y a des coraux, effectivement, qui arrivent à pousser à des profondeurs importantes, tout en maintenant leur symbiose avec les eaux xanthelles. Et bon, ces coraux, lorsqu'on les trouve à l'état fossile, eh bien, ils ne sont pas très intéressants pour les reconstitutions du niveau de la mer, parce que leur information paléobathymétrique est moins importante que d'autres. C'est ce qui est en fait symbolisé sur ce graphique qui résume la distribution bathymétrique en fait des organismes calcaires en Polynésie, enfin en particulier, enfin dans tout le domaine Indo-Pacifique. Donc je vais faire bien évidemment aucun détail sur ce sujet, mais ici vous avez les différentes espèces de coraux caractéristiques que l'on peut rencontrer à la fois dans les récifs actuels et dans les carottages, avec leur profondeur d'habitat actuel. Donc vous voyez que certains sont relativement fiables au point de vue de leur information paléobathymétrique, qui vont être confinés aux premiers 5 mètres, au premier mètre de la colonne d'eau, alors que d'autres vont pouvoir pousser jusqu'à pratiquement 25 mètres ici. Donc on va essayer de favoriser ceux qui sont avec des pousses relativement contraintes au point de vue paléobathymétrique. Le problème, c'est que dans la carotte, ils ne sont pas forcément présents. Et donc on va essayer de combiner les informations. On va aussi combiner les informations paléobathymétriques avec d'autres organismes que l'on peut aussi dater, ce qu'on appelle les algues corallines, et d'autre part avec d'autres organismes qui ne sont pas des coraux, enfin qui ne sont pas non plus des algues, sont des gastéropodes fixés, ce que l'on appelle des vermets, qui eux sont très restreints au point de vue de leur paléobathymétrie. Et je vous ai indiqué aussi, je vous ai montré, et j'en ai parlé dans les précédents cours aussi, que certaines morphologies de coraux, ce qu'on appelle les micro-atolls, permettent d'avoir des précisions encore plus importantes, désymétriques, sur les changements du niveau marin. Mais, encore une fois, l'exercice, il est un peu toujours le même, c'est-à-dire qu'on va faire des forages et essayer de reconstituer ces fluctuations du niveau marin. Donc voici, j'en avais parlé déjà lorsqu'on avait considéré la période holocène, mais bon, maintenant on va effectivement se plonger vers la partie la plus ancienne. Voici en fait le résumé un petit peu des travaux que nous avons réalisés et qui sont donc, qui font partie maintenant de la littérature sur le sujet, qui sont importants en fait pour reconstituer ces fluctuations de volume des glaces sur les continents et donc de niveau de la mer. Pendant cette période de transition post-glaciaire, vous avez un graphique en fait, qui représente, au cours du temps, depuis 20 000 ans avant le présent, le dernier maximum glaciaire, l'augmentation du niveau marin à partir de ces coraux. Donc chaque petit point, chaque petit triangle représente un échantillon caractérisé par des coraux et d'autres organismes qui ont été étudiés pour leur signification paléobathymétrique et datés avec les méthodes uranium-thorium ou carbone-14 et qui permettent de reconstituer ce niveau de la mer au cours du temps et de reconstituer cette courbe du niveau marin, donc qui démarre ici vers 120 mètres, vers 16 000 ans, pour culminer pour la période holocène avec les changements très faibles pour cette période holocène, avec un niveau de la mer qui est quasiment le même que le niveau actuel. Donc on a une augmentation de plus de 120 mètres à Tahiti. Ce qui est représenté aussi ici, ce sont les taux d'augmentation pendant certaines périodes exprimés en millimètres par an, donc intégrés sur plusieurs siècles, avec des, globalement pendant toute cette déglaciation, un taux d'augmentation qui est en moyenne de l'ordre d'une douzaine de millimètres par an. Ce que l'on a découvert en faisant ces analyses, on l'avait aussi vu avec d'autres enregistrements dans les Caraïbes, en particulier à la Barbade, on a pu mettre en évidence en fait une période d'accélération, ce que l'on a appelé le Melt-Autopulse 1A, avec une période un saut en fait du niveau de la mer de pratiquement une quinzaine de mètres, avec un taux d'augmentation qui était de l'ordre de 40 à 50 mm par an pendant plusieurs siècles. Donc il faut imaginer 15 mètres de niveau de la mer, c'est deux fois le Groenland au point de vue fonte des glaces en quelques siècles. Donc c'est énorme au point de vue phénomène climatique. Et 40 à 50 mm par an, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut comparer avec les 12 mm par an moyens, je dirais, pendant toute la déglaciation. On peut les comparer aussi avec les fluctuations actuelles qui sont résumées ici. avec, encore une fois, je voulais effectivement quelquefois faire des parallèles sur les amplitudes de ces changements climatiques du passé avec les changements actuels, mais pas du tout sur la même échelle de temps. Encore une fois, les 12 mm par an vont intervenir sur une période de l'ordre sur une période très longue, alors que là, il s'agit d'une accélération qui est relativement récente. Ici, c'est un diagramme en fait, qui est un peu similaire à celui que je vous ai montré tout à fait en préambule de notre cours, avec l'évolution depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle, du niveau de la mer, qui a pu être mesuré à partir des données marégraphiques, des marégraphes, on en a déjà parlé aussi dans des précédents cours, et les données beaucoup plus précises et cartographiées à l'échelle de la planète, des données par les satellites altimétriques qui permettent à l'heure actuelle de quantifier, avec sur les dernières décennies, une moyenne qui est de l'ordre, à l'heure actuelle, de 3 mm, d'un peu plus de 3 mm par an. Donc on voit que pendant cette déglaciation, on avait pratiquement 4 fois plus de taux d'augmentation que la fluctuation actuelle. Et il y a eu en particulier ce phénomène de débâcle qui correspond à cet événement à vers 14 500 ans avant le présent, ce qu'on a appelé le Meltwater Pulse 1A, avec un taux d'augmentation du niveau de la mer qui était un ordre de grandeur supérieur de l'ordre de 40 à 50 mm par an. Donc il faut imaginer des phénomènes absolument gigantesques. Et de la même façon que le GIEC a compilé les modélisations climatiques pour le futur, le GIEC, encore très récemment, ici il s'agit d'un diagramme actualisé avec le dernier rapport, ce que je vous montre ici, ce sont les fluctuations depuis 1950, donc qui correspondent à la fin de cette courbe, et les projections pour le futur du niveau marin, avec des fluctuations suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, des scénarios optimistes, utopiques ou pessimistes, réalistes, qui varient entre 50 cm et 1 mètre, voire en cas de déstabilisation, en particulier de la calotte de l'Antarctique de l'Ouest, des fluctuations qui pourraient aller au-delà de 1,50 m. Donc voilà pour le futur. Mais donc des phénomènes dont les amplitudes sont quand même assez différentes, mais des taux d'augmentation importantes et qui vont bien évidemment s'accélérer. On voit une accélération, donc ce 3 mm par an qui est valable actuellement, il a toute chance, malheureusement, d'augmenter dans le proche futur, notamment pendant la deuxième moitié du 21e siècle. Alors, donc je vous ai montré la courbe de Tahiti. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a d'autres enregistrements qui ont été établis, en particulier pour d'autres sites dans le Pacifique, d'autres sites en Atlantique. Nous avions travaillé, beaucoup contribué sur l'île de la Barbados. D'autres collègues ont travaillé sur la Nouvelle-Guinée, etc. Voici une vue qui compile en fait les différentes informations jusqu'au dernier maximum glaciaire, il y a à peu près 21 000 ans, qui était donc situé à peu près vers moins 120 mètres par rapport au niveau actuel. Donc ces différents enregistrements montrent tous une accélération qui correspond à peu près à 14 500 ans avant le présent, cette accélération du Meltwater Pulse 1A, donc on y reviendra, et une compilation qui montre donc une augmentation importante, donc, qui correspond à la fois à l'extension de ces calottes et leur volume, qui donc explique ces changements de cette transition post-glaciaire. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine dispersion dans les données, et cette dispersion, j'en ai déjà parlé dans des précédents cours, elle est partiellement liée au fait que toutes ces courbes de niveau de la mer, Tahiti, la Barbade, sont des courbes qui sont en fait locales, elles sont mesurées sur un trait de côte, et au premier ordre, les océans fonctionnent par principe de vase communicant, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les glaciers, les calottes de glace de ces glaciations, ont en fait déformé la Terre, et il faut en fait tenir compte de ces déformations terrestres, même lorsqu'on étudie les courbes de niveau de la mer établies pour des sites qui sont très éloignés des anciennes localisations des calottes de glace. Alors, je ne vais pas refaire le cours que j'ai déjà fait sur ce qu'on appelle le réajustement isostatique post-glaciaire, mais je vais juste vous montrer cette vue du problème très simplifiée, cette coupe, en fait, qui résume le fait que pendant la glaciation, il y avait d'énormes calottes de glace, Canada, Scandinavie en particulier, 4 km, 3 km d'épaisseur, et que donc ces calottes de glace énormes avaient tendance, ont eu comme conséquence de déformer la surface terrestre, de faire une dépression, 1 km pour la Laurentide, et avec donc un phénomène de subsidence et formation d'un bourrelet périphérique, un bourrelet périglaciaire tout autour, et lorsqu'il y a eu fonte pendant cette période de transition de déglaciation, lorsqu'il y a eu fonte, cette fonte peut être rapide, mais par contre la réponse terrestre, elle est beaucoup plus lente. Elle est d'une part élastique pour la lithosphère, mais elle est elle est assez visqueuse pour les couches beaucoup plus profondes de la Terre. Il y a des mouvements qui vont être centripètes pour combler ce vide qui a été créé par la fonte rapide à cette échelle, à l'échelle géologique de cette calotte de glace. Et donc, on va avoir les phénomènes inverses. On va avoir une surrection dans les zones qui étaient situées sous les calottes de glace, et une réponse par subsidence tout autour pour la partie du bourrelet. Donc on voit bien que si on étudie des traits de côte, encore une fois, il s'agit de phénomènes à très grande échelle, si l'on étudie un trait de côte qui était localisé sous les anciennes calottes de glace, eh bien, on peut très bien avoir un niveau de la mer qui descend pendant la déglaciation, parce qu'en fait, le continent remonte. Et en fait, ce que l'on étudie lorsqu'on fait des mesures ponctuelles sur des coraux ou d'autres organismes pour des localisations situées un peu plus au nord, ces changements glaciaires, interglaciaires du niveau marin sont des mesures locales, et donc ils vont être la combinaison finalement des changements liés au volume des glaces et des mouvements terrestres, notamment de cette remise en forme. Ça va être similaire aussi pour les zones qui entourent ces grandes calottes de glace. Et donc il faut en tenir compte, parce que ces phénomènes qui sont exagérés, enfin qui sont très importants au point de vue amplitude, lorsqu'on s'approche des anciennes localisations des calottes de glace, interviennent sur toute la Terre et même aux antipodes de ces calottes de glace, notamment dans le Pacifique. Quand on regarde Tahiti ou d'autres zones du Pacifique, on va avoir une influence, une petite influence, mais qui explique justement cette dispersion et certaines complications dans les enregistrements. Alors, c'est ce qui est résumé un peu sur cette planche. Ici, vous avez sur la partie gauche, avec un diagramme qui évolue de droite à gauche, on part de la glaciation 21 000 ans ici jusqu'à l'actuel, l'Holocène est ici, vous avez représenté de façon compilée toutes les informations sur les séries longues, en particulier la Barbade et Tahiti que nous avons établies, et on voit une dispersion qui est importante, on voit même qu'il y a certains points, il faudrait déplier les enregistrements, nous l'avons fait dans le cours sur l'Holocène, des points qui sont au-dessus du niveau actuel, et tout ceci est lié à ces modifications de la forme de la Terre, dont il faut, pour lesquelles il faut établir des corrections avec un modèle géophysique qui tient compte de ce réajustement isostatique post-glaciaire pour ensuite pouvoir convertir ces mesures en termes de niveau de volume de glace, enfin, ou de niveau de la mer moyen généralisé, eustatique, corrigé de ces effets de rebond isostatique post-glaciaire, de réajustement isostatique post-glaciaire. Donc c'est la courbe, la différence entre le panneau de gauche et le panneau de droite, c'est la correction à l'aide d'un modèle géophysique qui permet en fait de reconstituer des fluctuations qui sont exprimées ici effectivement en niveau de la mer propre, qui sont liées au changement du volume de glace. Donc on a pour le dernier maximum glaciaire, donc le début de la déglaciation qui est vu ici, donc on retrouve l'accélération du MWP1A, du Meltwater Pulse 1A, on retrouve d'autres accélérations, mais on voit que la dispersion des points est plus faible que dans le diagramme de gauche. On peut convertir ensuite ces changements du niveau marin en termes de volume de glace, exprimé ici en kilomètres cubes, en millions de kilomètres cubes, donc pendant la glaciation, les 130 mètres du niveau de la mer que l'on voit à la fois à la Barbade, Tahiti et autres, correspondent, peu ou prou, au stockage de 50 millions de kilomètres cubes sur les continents. Alors on voit aussi que, c'est ce qui est indiqué ici, la période holocène est caractérisée par une augmentation du niveau de la mer. On n'a plus de points au-dessus du niveau de la mer pour la période du début de l'holocène, comme on peut la voir sur certaines courbes qui sont... Ces choses-là sont liées à ce réajustement isostatique post-glaciaire, voire les cours que nous avons fait l'année dernière. Alors, ces volumes de glace que l'on peut quantifier pour toute la déglaciation et ces accélérations de la déglaciation permettent en fait de connaître les volumes de glace stockés sur les continents, mais il faut aussi avoir une idée de l'extension de ces calottes de glace. Alors, l'extension de ces calottes de glace, c'est le sujet en fait, de la suite du cours, mais on peut en avoir une idée au premier ordre en considérant uniquement les mesures actuelles du réajustement isostatique post-glaciaire qui continuent encore à l'heure actuelle. Les zones qui étaient englacées remontent encore actuellement. On peut le mesurer avec des GPS. Ici, vous avez deux cartes, une qui correspond à l'Amérique du Nord et l'autre qui correspond à la Scandinavie, où l'on retrouve en fait des mesures par GPS. Le continent remonte avec des vitesses de montée qui sont exprimées ici en millimètres par an. Donc au centre, au niveau de la baie d'Hudson, on a des remontées du continent qui sont de l'ordre du centimètre par an. De même pour le fond de ce qu'on appelle le golfe de Botany, ici, avec des remontées qui sont au-delà de 10 mm par an, donc 1 cm par an, et ceci a une conséquence en fait sur les changements du niveau marin, mais permet de localiser en fait les anciennes calottes de glace, la calotte Laurentide et la calotte phénoscandienne. C'était d'une part lorsque les premiers géophysiciens ont étudié, ça leur a permis en fait d'estimer aussi les volumes de glace et de les comparer avec ce que l'on peut obtenir avec les mesures sur le niveau de la mer, mais on voit très nettement, par exemple ici, le contraste entre les zones où il y a remontée, qui était située sous la calotte de glace, et la zone périphérique, où là, les mesures GPS indiquent que le continent descend, hein, il s'agit de ce bourrelet périphérique, périglaciaire, qui a tendance ensuite à subsider, à descendre au cours du temps à l'heure actuelle. Et donc on matérialise en fait l'extension géographique de la calotte Laurentide et de la calotte phénoscandienne. Donc dans le prochain cours, nous allons voir plus de détails en fait justement sur d'autres types de reconstitution, parce que la reconstitution pour essayer de contraindre et d'établir la localisation et l'extension de ces calottes de glace continentales, elle est relativement incertaine si on se contente de regarder les phénomènes de géophysique actuels et le volume intégré de glace à l'échelle de la planète, avec le niveau de la mer, comme je vous l'ai montré. On va aussi se servir d'autres informations, d'autres traces géologiques, géomorphologiques, qui ont été laissées par les glaciers de l'époque, et ça va être le sujet en fait, de la suite du cours pour essayer d'établir du mieux que l'on peut ces fluctuations de la présence des glaciers pendant la glaciation et au cours de cette déglaciation. Donc voilà, je termine ici pour aujourd'hui, et donc la semaine prochaine, nous parlerons encore plus de glace. Merci de votre attention.